Bonsoir et merci d'être venu à cette table ronde, donc Steampunk à la croisée des imaginaires. Alors il y a eu quelques changements, parce que Damien Snyers est bien avec nous. Malheureusement, Arthur Morgan et Christine Mus ne pourront pas être des nôtres. Mais nous avons un autre spécialiste du Steampunk et de l'imaginaire, André-François Rouault, merci pour ce remplacement au pied levé. Steampunk à la croisée des imaginaires. Avant toute chose, je voudrais vous présenter les deux personnes qui vont intervenir. Damien Snyers, donc auteur de La stratégie des As aux éditions AQSF, donc un premier roman, auteur belge, liégeois, une belle bêtise, pour l'instant j'ai 20 sur 20, donc un roman de fantasy avec des touches de steampunk. Et nous avons donc André-François Rouault, écrivain, anthologiste, essayiste, on peut dire ça, toutes ses casquettes, éditeur chez Les Moutons Électriques, qui est à l'origine, je crois, de Yellow Submarine, le plus vieux fanzine français, je dis toujours pas de bêtises, de l'imaginaire. Donc de nombreux essais, on peut le Sherlock Holmes, l'Arsène Lupin, le Dico Féerique, sous votre direction, toujours pas de bêtises. Ça va, j'ai bien travaillé, je suis fier de moi. Le steampunk.
Merci.
Le steampunk. Je pourrais lire mes nombreuses notes, mais je vais être feignant. André-François Rouault, le steampunk, si on devait donner une définition, qu'est-ce que ce serait?
A priori, c'est une forme de science-fiction ou de fantasy qui se déroule en général pendant la révolution industrielle, c'est-à-dire au 19e siècle. Mais le principe du steampunk, c'est qu'on décale, dans ces fictions-là, on décale l'époque de la révolution industrielle. C'est-à-dire que le futur est arrivé plus tôt. Et donc on se trouve dans des futurs ou des passés proches où la technologie s'est développée et s'est développée différemment. Et en général, sur une base de technologie à vapeur, d'où le terme steampunk, vapeur, évidemment, steam. Voilà. Et puis, très souvent, le steampunk est très souvent des dystopies. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais énormément d'écrivains de steampunk ont choisi, et choisissent encore, de faire des univers très, très noirs. Mais il y a plein d'autres choses en steampunk. Il y a de la fantasy steampunk, il y a des tas, voilà. Du moment qu'il y a ce décalage technologique, il y avait même eu un roman où la révolution industrielle avait eu à l'époque de Leonardo da Vinci. Comment ça s'appelait d'ailleurs? Il y avait le mot Raphaël dans le titre, c'était par Paul G. Macaulay, c'était chez Génie. Voilà, donc ça c'est un exemple un peu extrême de steampunk. Voilà, c'est du steampunk à l'époque de Leonardo da Vinci. Mais sinon, voilà, en général, c'est fin 19e, début 20e, mais décalé au niveau de la technologie.
D'accord, juste pour redonner un contexte un peu au steampunk, souvent on dit le steampunk, ça a été créé autour de trois œuvres. On parle notamment de K.W. Jeter, Morlock Knight, pardon, les voix d'Anubis de Tim Powers, et Homunculus de James Blaylock. On dit souvent, à une époque, à la fin des années 80, en opposition, mais par rapport au cyberpunk, ils ont décidé de dire, on va créer un autre courant qui lui rend hommage à la révolution industrielle. C'est un peu les trois fondateurs, si on ose dire, un peu du steampunk. Je voudrais juste revenir sur un point. Donc, vous avez cité pas mal d'éléments visuels, contextuels. On dit aussi que le steampunk, c'est un visuel, c'est une esthétique. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça aujourd'hui? Quand on pense steampunk, quelle image on peut avoir? Quelle image vous pouvez donner à des gens qui disent on ne sait pas ce que c'est le steampunk?
Oui, ça, c'est la grande force du steampunk. Effectivement, ça a été créé à la fin des années 80 par trois copains de Philip K. Dick. Et un peu pour déconner, on fait une série de romans mélangeant science-fiction et rétro. Mais ce qui est incroyable, c'est que petit à petit, c'est devenu véritablement une esthétique. C'est pas seulement une littérature populaire. Et maintenant, il y a énormément de gens qui s'habillent en steampunk, c'est-à-dire avec des corsets, avec des guêpières plus exactement, des chapeaux de forme. Voilà, il y a toute une esthétique. Il y a des tas de bars qui maintenant se décorent de manière steampunk. Il paraît qu'il y en a à Bruxelles, c'est La Machine.
La Machine, oui. Place Saint-Gély.
Oui, c'est bien.
Place Saint-Gély.
Place Saint-Gély, pareil. Ça, j'ai pas encore vu. Il y en a à Lyon, qui s'appelle l'Uchronium. Enfin, voilà, il y a différents endroits. À Lyon, il y avait même, c'est très bizarre, j'ai habité Lyon depuis un temps. Et à côté de chez moi, il y avait une boulangerie qui s'était décorée steampunk. Ne me demandez pas pourquoi. C'était vraiment une idée très bizarre, mais je vous assure. Il y avait des grands, des grands rouages dans la vitrine, à l'intérieur aussi. C'était très surprenant d'avoir une boulangerie steampunk. Le pain était normal. Il n'y avait pas de boulon dedans. Voilà, c'est devenu vraiment. C'est comme l'esthétique goth, par exemple, ou comme l'esthétique médiévale. Voilà, c'est une autre esthétique. Il y a vraiment une mode. Et pour ce qui est de la science-fiction et de la fantasy, c'est, jusqu'à preuve du contraire, la dernière esthétique. C'est-à-dire, il y a eu des tas d'esthétiques diverses. À la même période où on a créé le steampunk, il y avait le cyberpunk, qui était une esthétique très forte. Et vraiment la plus récente des esthétiques qui fonctionne vraiment très très bien, c'est le steampunk.
Oui, effectivement, la communauté, ce qu'on appelle la communauté vaporiste, est vraiment une renaissance au début des années 2000, c'est-à-dire vraiment reprendre les codes visuels du steampunk, c'est-à-dire ce mélange de technologie et de révolution industrielle 1900, en fait, pour en faire des costumes, des décors, et en plus qui s'est approprié une certaine communauté qui s'est construite autour de ça. Mais avant d'ouvrir le débat, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la littérature. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, parce que voilà, donc il y a eu les bases, on parle de la fin des années 1980 avec l'origine du steampunk. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le steampunk connaît une renaissance? Qu'est-ce qui donne envie, Damien, d'écrire ou d'introduire du steampunk dans son roman?
Qu'est-ce qui donne envie d'introduire du steampunk? Déjà, l'aspect visuel, parce que pour moi, le steampunk, c'est avant tout ça. C'est un univers visuel qui est vraiment très fort. Moi, ce que j'aime bien avec, c'est qu'il y a un côté très passéiste, mais qui n'est pas nostalgique. Parce que c'est. De par la définition, en fait, il y a steampunk, steam la vapeur qui est un peu le passé, mais punk qui est complètement dans le présent. Ça mélange le passé et le futur, donc on a une image qu'on aime, une image du passé, mais pas c'était mieux avant. C'était le passé comme on aurait voulu qu'il soit. Et pour moi, c'est avant tout ça le gros point fort du steampunk. Et la raison pour laquelle j'ai voulu en faire, c'était tout simplement l'univers qui m'inspire. On a envie d'avoir. Quand on écrit, le principal, c'est de vouloir faire passer un message, de vouloir écrire son histoire. Finalement, l'univers dans lequel on l'inscrit est relativement peu important. Simplement, on a certaines affinités avec certains paysages, certains décors, certains personnages, certains vêtements. Mais au final, ça restera toujours le message qui prime.
Je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, sur l'esthétique, je l'entends. Est-ce que c'est aussi un effet de fond et de genre? Parce que la stratégie des As, c'est. On n'est pas dans l'épic fantasy, on est dans un récit entre polar et le récit de casse, et finalement, on retrouve plutôt les codes du steampunk. C'est-à-dire, quand on écrit du steampunk, je parle sous l'égide d'André-François Réau, le polar n'est jamais trop loin non plus, quand même. Hein. Parce que la stratégie des As, si vous voulez bien en toucher un mot, c'est aussi d'abord un récit de policier. Finalement, le steampunk par-dessus ça, avec cette fantaisie et ce visuel par-dessus, ça colle plutôt bien.
En fait, c'est un univers qui s'y prête mieux au polar, tout simplement, déjà parce que la fantaisie, une de ses grosses caractéristiques, c'est qu'on a toujours une image un peu champêtre, un peu rurale. On a toujours l'image, je ne sais pas, par exemple, du Hobbit ou ou des grandes plaines du Rohan, tous ces trucs-là qui ont défini toute la fantasy, alors que le steampunk est par définition très urbain. Donc si on veut placer une histoire qui se passe en ville dans un univers imaginaire, c'est beaucoup plus facile de le faire dans un univers steampunk que de le faire dans un univers purement fantasy. Surtout si on veut pouvoir l'inscrire, inscrire son histoire dans, dans un univers qui a des référents communs avec ceux qu'on a, ce qu'on connaît déjà. Si on reprend par exemple l'histoire de la stratégie des As, elle s'inscrit dans un univers alternatif au nôtre, en 1900, donc en 1900 alternatif, dans lequel par exemple l'évolution différente a fait que Paris est complètement dévasté, que les pays africains sont les plus développés, qu'il y a, il y a des villes, donc, ici la ville dans laquelle l'histoire se passe, Novi Krakow, n'existe pas dans, dans tout le monde à nous. Donc tout ça permet d'avoir des références à notre monde actuel, tout en faisant quelque chose de complètement différent, et ça permet de s'affranchir complètement des codes du réel, en fait. Donc c'est, le steampunk, c'est pour moi un moyen super facile de reprendre des codes actuels tout en étant un peu feignasse et en s'en affranchissant quand on veut, dès qu'on veut, et en y mettant exactement ce qu'on veut.
Et c'est une forme de décalage, quoi.
C'est ça.
Qui décale notre univers. Le fait que, effectivement, souvent, la plupart du temps, le steampunk est urbain, polar, ça permet de faire ce décalage. Ce décalage, pour une histoire, c'est une histoire de casse, en fait. C'est comme les films de casse. C'est un groupe de personnages qui se réunit pour faire un cambriolage, un truc comme ça.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un groupe de voleurs. Tu vas récupérer un bijou qui est censé pouvoir guérir n'importe quoi. Ils sont engagés par quelqu'un qui n'est pas super, super sympathique. C'est plutôt un grand poisson de la pègre. Donc fondamentalement, l'histoire pourrait se coller avec d'autres univers. Maintenant, ça permet de toucher d'autres personnes. Mais je pense que justement, l'aspect urbain, l'aspect proche de nous du steampunk, permet d'avoir des messages qui sont complètement actuels. L'univers ne l'est pas du tout. Par contre, les messages sont complètement. J'y aborde des questions de racisme, j'y aborde des questions de médias, j'y aborde beaucoup de thèmes. Un peu en surface, mais c'est plus des questions que je pose plutôt que des réponses que j'apporte. Mais pour moi, c'est le grand avantage du steampunk par rapport à la fantasy classique, c'est de pouvoir aborder des thèmes qui sont vraiment, vraiment actuels. Même si on peut le faire évidemment en fantasy classique.
Donc le steampunk, un courant qui se base sur le 19e, basé sur la révolution industrielle. On voit qu'il y a un visuel, on est sur des univers qui sont uchroniques, rétro-futurs, c'est un peu le thème que vous utilisez en fait. On parle du présent, mais voilà, sur un passé réinventé, mais pas passéiste, au contraire, très d'actualité. La table ronde s'appelle « À la croisée des imaginaires ». On voit déjà qu'on croise le polar déjà dans cette table, parce que les codes, on retrouve quelques codes du polar là-dedans. Mais aujourd'hui, à la croisée des imaginaires, on est plus vraiment dans les codes, André-François Ruault. J'ai l'impression que quand je vois des steampunk comme celui de Damien, comme celui de Sorcière Associée, qui est sorti aussi récemment, ou l'épée de l'hiver que vous éditez aussi au mouton électrique, on est sur une entrée plus fantasy et on met du steampunk. Ça aussi, ça change aussi. On est sur une esthétique un peu différente.
Oui, bah, par exemple, dans l'épée de l'hiver, c'est un roman de fantasy classique, apparemment. Ça se passe dans une forteresse encerclée par les neiges et une lutte de pouvoir parce que le duc va mourir et donc qui va être l'héritier. Mais le petit élément discret dans ce bouquin-là, mais qui donne la poésie et le décalage intéressant, c'est qu'en fait, par moment dans le texte, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une révolution industrielle en cours. C'est-à-dire qu'on vraiment, on a l'impression qu'on pourrait être en Game of Thrones, ça a été écrit juste avant. Sauf que ce sera l'univers à la Game of Thrones où il commençait à y avoir des télégraphes, où il commençait à y avoir les premiers trains, etc. Et c'est intéressant et à la fois et poétique. Et c'est une chose que j'aime dans, dans l'esthétique du steampunk. C'est un côté, même lorsque c'est des textes très très noirs, c'est un côté très poétique. Une des figures majeures de cette esthétique, à part les rouages et la vapeur, c'est les dirigeables. Et imaginer des mondes où, plutôt que des bateaux, des containers et des camions, on transporte passagers et surtout le fret par des espèces d'immenses cigares géants qui naviguent lentement dans le ciel. Voilà, ça nous invente un nouveau réel que je trouve très très poétique. Et je comprends que Damien ait eu envie d'utiliser ce genre de... Ça fait des très belles images, ça nous parle d'une société légèrement décalée, c'est vachement intéressant.
L'aspect visuel du steampunk est souvent très, très défendu. On commence d'abord par une esthétique, presque avant de parler du genre. Là, on aborde, j'allais dire, les bases du steampunk. Est-ce que vous avez des questions sur le steampunk, c'est quoi le steampunk? Est-ce que vous avez besoin de précision? Alors, je vais vous passer le micro.
Mais oui. En fait, je voulais parler de ce genre-là. Et vous aviez dit que le steampunk avait été créé en réaction au cyberpunk. Et je ne sais pas si c'était le cyberpunk. Voilà.
Donc, oui, le terme reprend. Alors, je ne sais pas si on a des experts du cyberpunk autour de la table, un peu moins. Je vais essayer de donner une définition rapide. En fait, le terme de steampunk, le terme de punk, en fait, a été repris effectivement du cyberpunk. Le cyberpunk, en fait, c'était une volonté à un moment de créer une science-fiction qui était urbaine, qui était basée sur un futur proche, c'est-à-dire on oubliait, en fait, la projection à long terme. Donc on parle de ville, on parle de notre société à échelle de 20, 10, 20, 30 ans, et sur des technologies qui sont déjà évoquées dans notre quotidien. C'est-à-dire le cyberpunk, sa plus grande caractéristique, c'est d'être dépassé au bout de 20 ans. C'est-à-dire vous lisez du cyberpunk, à part quelques grands classiques vraiment suranticipés, vous êtes déjà, ils sont déjà désuets. En fait. Le cyberpunk, c'est l'urban fantasy de la science-fiction, si j'ose dire. C'est vraiment quelque chose qui est sur du court-termiste. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ça.
Et comme le nom l'indique, c'est évidemment surtout des histoires d'informatique, oui. D'ordinateur,
de réalité. Hein? Et de bras artificiels.
Voilà, de bras artificiels, oui, tout à fait, c'est ça, de médecine cyber et de réalité virtuelle. Voilà. Donc, effectivement, c'est une esthétique qui a été hyper marquante dans les années 80. Le simple fait que vous ne sachiez pas ce que c'est, ça montre bien,
ouais.
Non, mais sincèrement, c'est pas l'ignorance, ça montre bien que le cyberpunk, eh ben, c'est déjà passé. Quoi. C'est une esthétique qui a été formidable, qui était hyper polar, vraiment, et qui nous a projeté dans ce qu'allait être notre proche, ce qui est maintenant notre présent, notre proche univers d'être connecté tout le temps. Voilà. Et les virus informatifs, tout ça. Donc c'était fascinant. Il reste des grandes œuvres, évidemment, comme Neuromancien de William Gibson. Mais c'est une raison de dire que c'est déjà assez désuet comme esthétique. Maintenant, on ne fait plus trop du cyberpunk. Parce qu'on le vit. C'est typiquement le cyberpunk, c'était une science-fiction d'avant-garde. Qui a été rattrapé par le présent. On est maintenant dans le cyberpunk. Alors on n'est pas encore dans les réalités virtuelles aussi poussées que celles du cyberpunk. Mais une partie s'est réalisée.
Bah justement, un truc qui me fait assez rire, c'est que finalement le terme cyberpunk soit moins connu à l'heure actuelle que le steampunk. Alors qu'il avait été fait en réaction un petit peu, oui, presque en se moquant, presque comme une blague. Et pour moi, ça tient vraiment au fait que le steampunk, finalement, en se mettant dans le passé, peut être beaucoup plus pérenne que le cyberpunk. Surtout, assez bizarrement, il est dans le passé, mais il peut beaucoup plus évoluer que le cyberpunk pur. Et ça, c'est un truc qui me faisait assez rire, en fait. C'était que j'avais parfois des gens qui me disaient, par rapport à mon livre, qu'il y avait un côté steampunk, mais c'était pas tout à fait du steampunk, et que ça, c'était pas... Il y avait des éléments qui n'étaient pas, et puis ils attendaient plus, ou ils attendaient autre chose, ou ils attendaient pas des elfes dans ce univers-là. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que le steampunk, c'est un genre très bâtard, à la base. Il a été créé comme ça, c'était un genre bâtard. Et je trouve ça super marrant qu'on ait des gens qui soient super puristes du steampunk, alors qu'on parle d'un genre complètement bâtard. Et c'est justement vraiment... Pour ça, je pense qu'à mon avis, il va rester beaucoup plus longtemps que le cyberpunk.
C'est intéressant ce qui est sur... Ah, pardon. Je fais juste un petit bout de synthèse et je vous passe la parole. C'est intéressant parce que le cyberpunk, sur les éléments qu'on redonne, c'est un visuel très fort, c'est-à-dire on est sur un visuel déjà urbain, on est sur un visuel de futur qui n'en est plus parce qu'on est rattrapé par le présent. Finalement, le steampunk, c'est un peu ça aussi, même si on se projette d'abord dans le passé avant d'être rattrapé par la technologie. Et donc ça, c'est un premier point. Et la chose qui est intéressante, c'est cet aspect de spécialiste, de communauté. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le terme de punk aussi, on parle d'imaginaire, globalement, on parle de science-fiction et de fantasy, et puis après, c'est des sous-couches qui vont être défendues tour à tour par des spécialistes. Parce qu'on parle de steampunk, on parle de cyberpunk, on parlait tout à l'heure de dieselpunk, encore un autre forme, il y aura peut-être du gaz de schiste punk dans les 10 prochaines années. Non, mais c'est intéressant de voir qu'après, c'est réapproprié par des groupes. C'est-à-dire que ce sera l'objet des prochaines questions. Vraiment, je vais vous céder la parole.
C'est un peu question. Pour savoir, ça a quelque chose à voir avec les punks. C'est
rien.
Je laisse répondre.
Non, en fait, punk, en anglais, ça veut dire rebelle.
Rebelle.
Voilà. Et les cyberpunks, c'était des rebelles numériques, en fait. Et les trois auteurs de base du steampunk, voilà, c'était les rebelles de la vapeur. Voilà, ils revendiquaient qu'ils étaient réac, entre guillemets. Mais cette histoire de communauté, il y a quelques années, avec un auteur et un photographe, pour un bouquin que j'ai publié, on est allé à Londres sur les traces de Dracula, mais ils voulaient aussi aller voir les communautés goths. Donc on a fait des soirées dans des bois, dans des bistrots, etc. goths. Et il y a un truc qui nous a, enfin, qui moi en tout cas m'a vachement amusé par rapport aux goths en France qu'on peut voir, c'est qu'il y a des sous-catégories de goths à Londres qui sont fascinantes. Il y a des goths fluo et c'est très joli, c'est vraiment la même esthétique que les goths, mais au lieu d'être tout en noir, ils sont dans des couleurs fluo hallucinantes, les grands manteaux en cuir au lieu d'être noirs. On en a vu un dans le métro, donc c'est pas juste juste dans des bistrots, quoi. Là, celui dont je rappelle, on l'a vu, on l'a croisé, le mec, l'après-midi, dans le métro, il avait un grand manteau en cuir, ouais, le violet, enfin, quasiment bon, quoi. Waouh. Et il y avait des goths cyberpunk, par contre, qui est des steampunk, justement, dans ce milieu-là, on a l'habitude. À Londres, à l'époque, il y avait des mecs et des filles déguisés avec un faux bras robot, avec des lumières sur le front, des bus informatiques. C'était super rigolo. il y avait une esthétique, alors que le cyberpunk, il est un peu oublié, mais là, eux, ils utilisaient un petit peu cette esthétique-là. Je passe la parole. Merci.
Pour revenir sur la question de la demoiselle tout à l'heure, en fait, le cyberpunk, ce serait un peu plus... le steampunk, vous voyez déjà ce que c'est, donc c'est un passé rétro-futuriste, donc avec un truc particulier. Et en fait, le cyberpunk, en termes visuels, en tout cas, c'est du steampunk, mais à l'inverse. Donc c'est des technologies plus futuristes, c'est plus de l'acier, c'est plus des grands industriels. Et ce qu'un aficionado de cyberpunk m'a raconté, et je suis assez d'accord, en fait, le cyberpunk, c'est souvent, parce qu'on dit punk, parce que c'est rebelle contre des grandes multinationales qui contrôlent le monde, assez déshumanisé comme ça. Et donc le cyberpunk, ce serait un peu plus un univers où on se... C'est combattre l'industrie en quelque sorte, même si c'est très, très extérieur.
Le propre du cyberpunk, c'est que ça va mal se passer. C'est-à-dire l'écologie a mal tourné, et des plus acides, c'est sale. Multiline, question peut-être.
Je voulais rappeler qu'il y a deux auteurs, justement, fondateurs du cyberpunk, Bruce Sterling et William Gibson, qui ont créé littérature éprouvante, cyberpunk et steampunk. Le titre, c'est Les machines à différence, ou l'informatique. La machine à différence, pardon, oui. C'est justement l'informatique du style, de la rappelle.
C'est une très belle remarque, merci. Parce qu'effectivement, quand on cite les trois pionniers en fait, du steampunk, on cite aussi la machine à différence, qui est un récit, ce qui est drôle, parce que donc, Bruce Sterling et Gibson sont les auteurs de cyberpunk, qui vont écrire du steampunk, ce sont le quatrième texte qui est cité. Et eux, ils imaginent donc Charles Babbage, qui a inventé le premier ordinateur mécanique numérique, et Ada Lovelace, qui a écrit le premier programme numérique. Je parle de 1865, je crois, si je ne m'abuse, donc on est très ancien. Et ils imaginent, et si ça n'a pas été poursuivi, en fait, ce projet-là, et si ça avait marché, ça avait vraiment créé en fait, l'informatique au cours des années 1900, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc effectivement, là on est typiquement dans du steampunk, le SI, qui mélange les deux, c'est-à-dire un cyberpunk, steampunk. Si l'informatique était arrivée à bien la vapeur et la mécanique à se développer. Je voudrais qu'on revienne, qu'on élargisse un petit peu la question sur l'aspect de la communauté. On parle souvent on va revenir sur la communauté francophone de steampunk. Par contre, très naïvement, Damien, la communauté vaporiste steampunk en Belgique, ça dit quoi? Vous connaissez un peu? Vous avez abordé la question? Vous ne connaissez pas du tout?
Bon, pour le coup, je ne connais pas du tout la communauté steampunk. Désolé, c'est la question piège. Mais en France, je sais que c'est pas mal développé. Dans le salon que j'ai pu faire, j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de gens en fait, dans les salons fantastiques, aux imaginales, même dans les salons plus traditionnels. J'ai pu voir qu'il y avait vraiment des gens qui aimaient bien venir costumés. Attention, il faut dire costumés et pas déguisés, parce que sinon ils se fâchent. J'ai eu le malheur de dire déguisé dans une conférence. Je me suis fait reprendre directement. Donc, mais c'est vraiment, vraiment chouette à voir, en fait. Mais pour le coup, je ne sais pas du tout si en Belgique ça se fait. Bon.
Vous voulez peut-être agir?
C'est juste que je connais
Alors moi, j'habite plus dans le Hainaut, donc voilà, c'est un peu loin de Bruxelles, mais sur Mons et dans les César Tour, il y a une communauté steampunk qui s'appelle l'équipage du Black Storm, donc ils sont un peu plus typés pirates, mais l'idée y est, et ils font régulièrement des sorties, surtout dimanche sur Mons, quand il fait beau, donc pas comme maintenant. Et la communauté steampunk en Belgique est seulement en train de s'ouvrir, il y a des pages Facebook, il y a des groupes, c'est un truc qui est vraiment en train de se lancer petit à petit. Et après, au niveau des communautés, c'est encore assez... Les gens font beaucoup ça chez eux, mais il n'y a pas beaucoup de grandes communautés qui se réunissent. Mais à nouveau, l'équipage de Backstorm sur Mons, pour ceux qui connaissent, ça existe.
Voilà.
Sur lequel...
Des conventions un peu geek, donc très gros guillemets, il y a beaucoup de steampunk aussi.
Je recentre sur le débat. Ce qui est intéressant, c'est que on a un genre, le steampunk, qui est créé à la fin des années 80, sur un, entre guillemets, contre, j'aime pas le terme, mais le cyberpunk, en réaction par rapport à ça. Finalement, les deux se perdent un peu. Il y a une esthétique qui est réappropriée, alors pas pour le cyberpunk, mais pour le steampunk par les communautés, au début des années 2000, au moins en France, qui revient très fortement. Et tout d'un coup, ça réinvestit la littérature. André-François Rion, c'est assez intéressant parce que du coup, on se retrouve avec des gens qui réinvestissent le steampunk, non pas par la connaissance littéraire, mais par une esthétique. Et ça explique peut-être pourquoi aujourd'hui le steampunk, quand il arrive en littérature, entre guillemets, ne respecte pas tous les codes.
Oui, tout à fait. C'est la fantaisie, par exemple, en tant que genre, elle est née grosso modo de deux choses, de la rencontre de la littérature et du jeu de rôle. C'est-à-dire elle a explosé au moment où il y a eu redécouverte d'une littérature, surtout anglaise, qu'on a déclarée être la fantasy, évidemment Tolkien en priorité, et en même temps il y avait l'invention du jeu de rôle qui était médiéval, fantastique, etc. Donc voilà, ça a explosé. Le steampunk, c'est la rencontre, effectivement, dans les années 2000, de cette esthétique de costumes, de cosplay, de création d'objets, et une nécessité commerciale, parce qu'on est toujours dans la littérature populaire, hein, comme pour la fantasy à l'origine, donc la nécessité commerciale de trouver des nouvelles choses à raconter après la bitlit. La bitlit, c'est l'histoire de vampires. Ça a eu un succès absolument démentiel, toutes ces histoires de jeunes gens vampires. Il y a eu un tétrachier d'auteurs et d'autrices qui ont écrit ça. Chacune a essayé de trouver sa petite originalité. Alors on rajoute un loup-garou, voilà, différentes choses. Et il y avait cette pression commerciale de créer de la bitlit ou en tout cas d'autres littératures populaires très rapides, très urgentes et très romanesques. Et des auteurs ont commencé à introduire de la technologie de vapeur, des dirigeables, etc., aux côtés de leurs vampires et de leurs loups-garous. Et puis petit à petit, il y a d'autres auteurs qui ont fait directement du steampunk. Et très très rapidement, moi c'est un truc qui me fascine toujours, c'est la vitesse de développement des littératures populaires. De même que la fantasy s'est développée vraiment sous forme d'une explosion, le steampunk également, dans les pays anglo-saxons, a explosé à une vitesse phénoménale, au point qu'il y a même du steampunk intello maintenant, je veux dire, dans les rayons, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques bouquins qui utilisent l'esthétique du steampunk et qui sont commercialisés en rayon littéraire et pas en rayon de science-fiction.
Tu as des titres ?
Je ne me rappelle pas du titre. Il y en a un qui est traduit en français. Je ne sais plus l'éditeur, je ne sais plus le titre. Je suis désolé. Et c'est vraiment typiquement un bouquin de littérature générale, je l'ai vu. C'est un très beau bouquin. Très lent, très contemplatif, et sur le rapport père-fils. Et il a été commercialisé en littérature générale aux États-Unis et en France également. Je suis désolé de ne plus me rappeler chez quel éditeur c'est. Voilà.
J'allais même, si je peux ajouter quelque chose, pour moi c'est même devenu un aspect graphique avant même d'être un genre littéraire à l'heure actuelle. Parce que personnellement, dans mon cas, avant d'écrire le mien, je vous avoue clairement que j'avais pas lu le bouquin steampunk. J'ai découvert le steampunk avec les Sherlock Holmes et Guy Ritchie, avec le Bioshock, Dishonored, avec tous ces trucs-là, mais pas les premiers livres de steampunk que j'ai lu, c'est après avoir écrit le mien. Donc moi, mettre le steampunk comme genre littéraire maintenant n'a plus vraiment de sens.
Alors c'est une magnifique transition, parce que du coup, oui, en fait, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ta remarque. Ah, nous avons un nœud. Par rapport à ça, on se retrouve avec, comme je disais, une émergence en fait, de l'esthétique reprise par les communautés laboristes au début des années 2000. On a une réémergence dans le courant littéraire du steampunk, mais finalement, les références ne sont pas les mêmes. Tu cites quoi ? Tu cites Bioshock, c'est un jeu vidéo. En fait, on a presque un renouveau du steampunk, c'est-à-dire l'ancien steampunk très littéraire, très référencé, avec un code... C'est du 1900 anglais, peut-être français, enfin au moins Commonwealth en termes d'esthétique. Et aujourd'hui, on a un steampunk qui est beaucoup plus ouvert. Je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un deuxième steampunk qui se met en place ? Celui d'une génération qui n'a pas forcément du steampunk, mais qui sait ce que c'est visuellement, qui sait par les jeux vidéo, qui sait par la BD, qui sait par d'autres médias qui sont parés de ce visuel. Et aujourd'hui, il est réinjecté dans le littéraire. C'est un peu ce qui nous arrive d'année.
Dans mon cas, complètement. Ouais. Je joue encore un petit peu, mais je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'ai beaucoup été influencé par ça. qui eux-mêmes étaient influencés par les bouquins. Donc c'est un cycle comme ça tout le temps, je pense. C'est ça, c'est ça. Maintenant, je pense que les deux existent toujours. Parce que j'avais lu Feuillet de cuivre de Fabien Clavel, qui lui était totalement steampunk, mais à l'ancienne. Et alors qu'il est sorti, je pense plus ou moins en même temps que le mien. Et je trouve ça justement assez chouette, assez amusant d'avoir les deux qui coexistent et qu'il n'y en ait pas vraiment un qui prenne le pas sur l'autre. Et ça fait, je sais pas, ça fait peut-être même un petit peu une sorte de nouvelle querelle des anciens et des modernes. Et ceux qui veulent se taper dessus pour garder les codes, ceux qui veulent échanger un petit peu, faire leur sauce. Et puis peut-être que moi, mes codes de maintenant, bah, j'aurais peut-être envie de les garder plus tard, je serai le nouvel ancien. Je crois que c'est une boucle qui se répète tout le temps.
Mais c'est intéressant en fait cette confrontation là. André François, du coup on a à nouveau un ancien steampunk, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le steampunk c'est quoi? Parce que c'est comme le but de la table ronde d'avoir une définition un peu consensuelle. Est-ce qu'il y a réellement deux définitions ou deux époques? Ou en fait c'est juste un combat de table ronde là qu'on fait?
Non, il y a effectivement, enfin moi quand j'en lis, j'ai l'impression qu'effectivement il y a deux époques. Et comme le dit Damien, de nos jours, il y a des auteurs qui l'écrivent à l'ancienne et puis qui l'écrivent à la moderne. Et dans les deux cas, de toute façon, c'est fun. Le steampunk, c'est quand même essentiellement, c'est une esthétique, mais c'est vraiment jubilatoire. Voilà. C'est toujours, moi j'adore ça. Je déborde des tonnes de romans américains steampunk. Et c'est vachement marrant. On peut faire tellement de choses avec le steampunk et au-delà le rétro-futurisme qu'il y a un auteur, George Mann, un auteur anglais, qui a fait un cycle de steampunk classique, donc enquêteur à l'époque de la Reine Victoria, mais il y a des robots, des zombies et des dirigeables et de la part partout. Et parallèlement, il a fait deux romans, je crois, qui se passent à New York, et c'est quasiment du Batman. Et c'est vachement fun de lire une espèce de pseudo-Batman à vapeur, quoi, à New York, très rétro. Enfin, voilà, c'est une littérature qui est quand même très très fun.
Et sur la dernière partie, on reviendra aussi, vous avez souvent cité le terme de populaire, c'est très important aussi à mon avis. Je pense que ce serait les communautés, les différents styles ne se seraient pas réappropriés le steampunk si avant tout c'était pas ce que vous dites, une littérature fun, accessible, qui se prend pas la tête. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise littérature, mais il n'y a pas cette volonté très intellectualisée. On est vraiment sur un récit, on se fait plaisir, on a un visuel, on a des envies. Est-ce que vous avez des questions un petit peu sur l'évolution du steampunk? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Les combats anciens, nouveaux steampunk? Pas du tout.
Je passe le micro pour poser. Pourquoi est-ce que le feuilleton Les Mystères de l'Ouest des années 70 est considéré comme la première œuvre steampunk de la Terre?
Je passe la réponse peut-être aux spécialistes. Vous avez une réponse par rapport à ça?
Alors, je vous avoue plus que je ne connais pas trop Les Mystères de l'Ouest. Maintenant, je pense qu'à partir du moment où on fait du rétrofuturisme, on colle plus ou moins à cette étiquette-là. J'avais cité plusieurs trucs avant, mais pour moi, le premier truc qui m'a fait accrocher au steampunk, c'est Retour vers le futur 3, qui se passe plus ou moins à Western aussi, avec le train là, qui est amélioré avec nos techniques actuelles et tout ça. Je pense que c'est ça en fait qui m'a fait venir dedans. Et si je me souviens bien, Les Mystères de l'Ouest, ça se passe aussi dans du Western, il y a aussi des trucs qui n'existaient pas à l'époque. C'est pour ça qu'à mon avis, ce côté uchronique, c'est pour ça à mon avis qu'on parle de steampunk pour Les Mystères de l'Ouest.
En quoi?
Oui, le faux ovni. Je compléterais peut-être aussi sur les réflexions actuelles des Mystères de l'Ouest. Le film de, je crois que c'est Barry Levinson, contemporain des Mystères de l'Ouest, qui avait été fait avec un visuel très fort, très steampunk pour le coup, dans sa version moderne, je crois qu'il était sorti en 1999, avec Will Smith. Et c'est peut-être aussi ça aussi qui a contribué à redire que, ah oui, les Mystères de l'Ouest, c'était steam. C'est souvent cité d'ailleurs, hein, l'histoire de l'araignée géante, très steampunk.
Wild West,
oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment été cité en termes de visuel au début des années 2000 pour dire, Bon, le film vaut ce qu'il vaut, mais par contre, en termes de visuel, effectivement, c'est le début de cette appropriation du visuel steam. Non, tout à fait.
Donc, pour revenir sur Wild Wild West, bon, je vais passer pour vieux con pour le coup, mais en fait, comme vous l'avez cité tout à l'heure, le steampunk est recouvert de sous-couches. Et avec des vieux avec accrochés à leur code bien précis, et puis les jeunes qui veulent transcender l'école. Et en fait, pour les plus aficionados et les plus vieux jeux sur le steampunk, Wild Wild West n'est pas du steampunk, c'est un terme précis qui s'appelle le Wild West, donc le West bizarre, donc dans le sens où c'est comme c'est du steampunk, mais au Far West. Et donc, Wild Wild West et les mystères de l'Ouest, c'est du Wild West. Dans ce sens-là. Et dans le steampunk, il y a plein de sous-couches différentes, plus ou moins précises, parce que en tant que fan, on aime bien mettre des catégories, mais ce n'est pas toujours vrai.
Donc là, nous avons la réponse, ce n'est pas vraiment du steampunk, c'est du Weird West, qui n'a rien à voir avec le diesel punk, qui n'a rien à voir avec le pose de shift punk. Donc, on sortait de cette table ronde des spécialistes. Des spécialistes. Je vais revenir sur des éléments un peu plus larges. Je voudrais juste ramener une précision. On n'est pas sur une opposition. C'est-à-dire, il y a peut-être un nouveau et un ancien steampunk. Juste à l'origine, c'est rentré par la littérature. Ça s'est réapproprié par des communautés rôlistes, vaporistes, sur les esthétiques. Il n'y a pas de confrontation pour moi. Là encore, je pense que c'est un élément important. On n'est pas sur deux écoles. On est juste sur deux époques. Et donc du coup, après, ça réinvestit la littérature d'une deuxième façon. Je pense que c'est important de le préciser également. Je dois relever un autre aspect du steampunk dans la littérature aujourd'hui, en 2007, qui est important. C'est devenu quand même assez bankable. Quand on voit certains films d'animation, je pense ne serait-ce que... Je sais pas, je vais citer des exemples français. Avril et le monde truqué, qui est fait par Tardy, qui est un très bon film, qui a réinvesti effectivement du rétrofuturisme dans son film d'animation. Quand je pense à Adèle Blanc-Sec de Besson, pour que Besson s'empare d'une thématique ou d'un visuel, c'est qu'il y a des sous à se faire. Quand je pense même à Hugo Cabret de Martin Scorsese, voilà, ou pour revenir sur les littératures de l'imaginaire, je vous passe la parole derrière. Sur les mois du cuivre qu'on voit apparaître chez certains éditeurs, des mises en avant sur le steampunk. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le steampunk est devenu plus qu'un renouveau, est devenu une mode littéraire?
Ça, c'est la grande question. On va laisser les deux spécialistes répondre. Mais non, je réagissais par rapport à Patrick, qui dit qu'il y a un autre steampunk, mais c'est lui qui a travaillé dans le set il y a quoi? Il y a 20, il y a 30 ans.
Oui.
Donc bien avant que ce soit bankable, le sens que nous comprenons maintenant, bien avant les Sherlock Holmes et les Witches, je ne sais pas si c'est vraiment opportun de dire qu'il mise sur cette vague. Une Besson choisissant d'adapter à des pensées qu'effectivement. Mais Tardy a été, je crois, un des premiers en France à tenter ce esthétique-là, en tout cas en BD, donc peut-être que c'est. Voilà.
En BD, je vais voter en tout, je suis très mauvais connaisseur BD. Juste pour vous répondre sur l'aspect d'Avril et les Mondes Truqués, sachez que le projet n'était pas financé jusqu'à au succès d'Adèle Blanc-Sec. En fait, la communauté francophone, donc il faut savoir qu'un film d'animation coûte trois fois plus cher qu'un film standard, les budgets ont été débloqués suite à se dire « Ah oui, cette esthétique est à la mode, donc on va financer Avril et les Mondes Truqués ». Donc, effectivement, Tardy, c'est très vieux, hein, Adèle Blanc-Sec, effectivement, vous avez peut-être raison, c'est 81, je crois, de mémoire. Même avant, 79, mais le film Avril et les Mondes Truqués a bénéficié en fait de cette je dis mode, le mode était mal choisi. Vous en pensez quoi de cette mode de steampunk qui a coulé à travers les genres?
Vous votez pas.
Bon, j'en pense rien, moi j'apprécie, je trouve ça très fun, j'essaye d'en publier moi-même quand je trouve des manuscrits francophones. Et puis on vit dans une époque pour les littératures de l'imaginaire, on vit dans une époque du mélange. Oui. C'est-à-dire que maintenant, il me semble qu'en grande partie, on se contrefout de la pureté des genres, la pure science-fiction, la pure fantasy, etc. on vit vraiment dans un mélange des genres et je trouve ça absolument réjouissant en tant que lecteur et en tant qu'éditeur. On mélange Peter Pan avec des filles de New Yorkais, c'est un bouquin que je publie là au mois de mai, je crois. On mélange une chasseuse de vampires avec une uchronie où Staline a fait péter une bombe atomique et donc on est en 1951 en hiver nucléaire et il y a une chasseuse de vampires et c'est écrit comme du polar. C'est un truc que je publie en septembre et je trouve ça, je trouve ça absolument savoureux, ce goût des écrivains actuels de tout mélanger comme ça. Je juge pas, je sais pas si c'est une mode ou voilà, c'est sans doute une réponse. Ces mélanges, c'est peut-être une réponse au fait que, comme je disais, il n'y a plus eu de nouvelle esthétique depuis le steampunk. Alors, le steampunk d'origine, c'est les années 80. Donc, ça veut dire que depuis les années 80, où il y a eu à la fois le cyberpunk et le steampunk, il n'y a plus eu création d'une esthétique forte. Donc peut-être que tous ces mélanges, c'est pour répondre à ce manque d'esthétique fort. On crée des tas de choses. J'adore aussi le Wild Western. Hein. Je trouve ça super fun d'avoir des histoires dans le Far West avec des loups-garous et des machines à vapeur, etc. Je trouve qu'en littérature de l'imaginaire, on est dans une période assez jubilatoire dans ce qu'on peut lire et publier, dans ce qu'on nous propose.
Juste, Damien, par rapport à vous en tant qu'écrivain, du coup, est-ce que c'est la stratégie des As, c'est une envie ponctuelle ou c'est vraiment un espace de jeu que vous voulez réinvestir par la suite, ça ? C'est une vraie question.
Bah écoute, je suis en train d'écrire le deuxième. La suite, donc voilà. Donc non, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup écrire dedans. Moi, ça me touche beaucoup. Il veut pas. C'est la concurrence déloyale, ça. On peut me faire taire, je pense. Non, plus sérieusement, je pense que le steampunk, en fait. Je pense pas que ce soit bien ou pas bien, c'est un moyen. C'est comme tous les genres en général, c'est juste un moyen de faire passer une idée, et c'est pas un but en soi. Que ce soit faire du steampunk, c'est pas parce que c'est du steampunk que ce sera bien, c'est pas parce que c'est du steampunk que ce sera mal. Donc le steampunk, si c'est une mode, ça peut être une mode, c'est pas grave, ça aura un début, ça aura un point culminant, on est peut-être au point culminant pour le moment, puis ça va décliner, mais ça existera. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui écriront ces trucs-là, ça va se réinventer, ça va remonter parfois, mais tant que ça permet d'être un bon moyen de toucher les gens et de faire passer des idées, pour moi, c'est parfait.
C'est très intéressant ce que vous dites, je passe la parole juste derrière, mais c'est très contemporain et très actuel, en fait, vos deux positions, de vous dire bah, c'est un genre, il est mixé, c'est pas grave, c'est le fun, c'est le propos qui compte. On est quand même, j'ai l'impression, parfois, notamment sur les littératures, alors je parle pas du niveau francophone, je parle du niveau français, on est très à cheval parfois sur les étiquettes. Aujourd'hui, de dire, bon, le steampunk, il peut être comme ça ou comme ça, je suis pas sûr, en fait, que ce soit le parti pris de tout le monde. Je me trompe peut-être. Est-ce que sur la question du steampunk, une mode, vous avez des questions, vous voulez réagir sur quelque chose par rapport à ça ?
Ce que tu viens de dire, Ami, c'est un moyen de faire passer des idées. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. Pour vivre. On est à une période où tout est chaud. Toi, tu es peut-être même né dedans. Moi, je ne suis pas né dedans. Mais ça commençait quand je suis né. Ça commençait. Alors qu'on avait encore des catégories. Maintenant, il n'y a plus. On ne sait plus où on en est. Et le moyen de faire passer des idées et de relire le passé, de ce moyen-là, il y a moyen de, aussi. Comment ? Ça a été, mais ça aurait pu être autrement aussi. Et pourquoi ? Donc c'est se poser vraiment les questions fondamentales en même temps. Au-delà du fun et de l'esthétique et tout le bazar qui ne fait qu'ajouter en fait. Mais il y a un truc, pour moi, je trouve très profond là-dedans.
Oui, je suis d'accord avec vous. Je reprécise peut-être quelque chose aussi. Le fun et tout ça ne font pas qu'ajouter. Je trouve ça très intéressant que littérature populaire, qui a souvent été décriée comme une littérature de bas étage, de pouvoir revendiquer qu'une littérature populaire est intéressante et revendique le contemporain et les problématiques contemporaines, et bien, ça fait du bien de le rappeler parfois que le populaire, ce n'est pas que en fait de la littérature. Alors de garde, à mon sens, moi j'adore la littérature de garde, donc je ne trouve pas ça péjoratif, mais je trouve que c'est important de dire que la littérature populaire, c'est la littérature qui peut être intelligente et qui parle aujourd'hui, que le steampunk, qui est aujourd'hui une littérature populaire qui est réappropriée par les plus jeunes, eh bien c'est important en fait. On arrive un petit peu au bout de cette heure de débat. Je voudrais juste faire un petit point. Donc, le steampunk naît d'une littérature littéraire à la fin des années 80, en réaction à un autre courant qui s'appelle le cyberpunk. Il réapparaît au début des années 2000 sur un aspect esthétique, notamment les communautés vaporistes steam. De nouveaux auteurs s'en réemparent. On se rend compte que le steampunk il est réapproprié de deux façons, à la fois par des gens qui ont un bagage littéraire et qui se réfèrent aux codes d'origine, d'autres qui n'ont, sans dire qu'ils cassent les codes, mais finalement remoulinent en fait l'idée qu'ils ont du steam et de ce visuel pour faire de la littérature. Et finalement, ça déborde sur les gens. On est sur les jeux vidéo, on est sur du visuel, on est sur la littérature, on arrive même à en faire des choses qui sont et populaires et bankable. Et je serais tenté de dire, finalement, le steampunk, est-ce que... Et demain, ce sera quoi ? Est-ce que ça... Je sais que c'est une question un peu dans le vide, mais c'est intéressant de se dire, est-ce que demain ça s'arrête comme la mode des vampires qui tous les 20 ans ressort, ou c'est quelque chose qui selon vous, va être pérennisé ?
Comme je le disais, pour moi, ça me dérange pas en fait, que ce soit une mode. Donc une mode, ça en début, ça c'est un point culminant, puis après ça commence à décliner, donc je pense que ça déclinera. Ce sera remplacé par autre chose sans doute. Maintenant, si on commence à partir sur essayer de prédire le futur, on est plus sûr de la SF là, voire du cyberpunk.
Ah ouais.
Non, moi j'ai pas d'opinion sur ce que sera les gens. Hein. J'ai simplement, vraisemblablement, tous ces mélanges, c'est justement une recherche d'une nouvelle esthétique. Moi j'ai juste envie de raconter une bêtise. À Mons, il y a le salon entre les légendes. J'y suis allé plusieurs fois. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'ils ont fait sortir le dirigeable avant de faire le salon. C'est dans une halle arrondie comme ça, un hangar colossal, et vraiment, à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression qu'ils ont enlevé, ils ont fait sortir le dirigeable du hangar à dirigeable pour pouvoir organiser le salon. Voilà.
Je voulais une prédiction du futur, parce que Trois les légendes, c'est dans pas longtemps, c'est fin avril, tous les deux ans. Est-ce que vous avez une dernière question avant qu'on se quitte ? Oui ?
J'aurais une question pour Damien Snyder, je prononce bien ? Pour monsieur Damien. Pour vous, le steampunk, c'est en fait, quand vous créez votre histoire, la stratégie des As, est-ce que vous avez l'idée de votre histoire et ensuite vous l'imbriquez dans l'univers steampunk, ou alors vous avez l'univers en tête et vous vous inspirez au fur et à mesure. Est-ce que vous avez votre fil conducteur et sa fil conducteur qu'on pourrait transposer dans d'autres univers, ou alors est-ce que le steampunk est au-delà d'un contexte, est un moyen d'arriver à votre histoire ?
Alors en fait, moi, c'est ni l'un ni l'autre, parce que je fais partie des auteurs qui improvisent beaucoup. Donc, par exemple, la stratégie des As, à la base, c'était une nouvelle qui était écrite pour une sorte de challenge d'écriture. Je ne savais pas ce que j'allais faire au chapitre d'après, et je ne savais pas ce que j'allais mettre au chapitre d'après. Donc, l'univers et l'histoire se sont ensuite au fur et à mesure. Donc, voilà, c'est ni l'un ni l'autre.
Le temps passe, on arrive à la fin de cette table ronde. Voilà, juste pour vous dire que on va retrouver Damien à une autre table ronde sur l'imaginaire belge de l'autre côté du salon.
5 minutes.
Dans 5 minutes en salon ronde. Il faut admirer quand même le rythme sportif de nos auteurs, aux côtés de Stéphane Plateau et de Sarah Doc.
C'est
Mais je voudrais surtout que vous puissiez applaudir à la fois Damien qui est pour la double table ronde et surtout André-François Ruault qui nous a fait l'amitié de remplacer au pied levé d'autres invités. Merci à vous. Merci à vous.